Loup. À la une, la circulation. Comment le gouvernement compte l'améliorer? Les Rory avec ce projet d'exportation. Et enfin, le FIFO, ça commence le 31 janvier et une soirée exceptionnelle nous attend. Le journal de la rédaction de Radio 1 et Thierry FM, c'est avec Lucie Rabréau. Bonjour Lucie.
Bonjour Damien, bonjour à tous.
Et vous êtes peut-être dans les bouchons là actuellement. Et justement, une étude était présentée hier sur la circulation.
Et oui, le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a présenté hier le résultat de la campagne de comptage de véhicules. Cette étude s'est déroulée entre août et septembre dernier. Ce sont 33 000 véhicules qui rentrent dans la ville tous les matins de la semaine. Le pire étant en ce moment même, entre 6h30 et 7h30, une heure de pointe avec plus de 8 000 véhicules. Sur les routes, moitié venant de la côte est et l'autre de la côte ouest, où ils sont légèrement plus nombreux. L'étude présentée hier s'est surtout concentrée sur la côte est, où plusieurs aménagements sont déjà prévus dans les 5 prochaines années.
Les principaux points de congestion qui ont été identifiés par le bureau d'études sont justement les points de congestion que le gouvernement souhaite traiter à travers les aménagements qu'il a prévu de mettre en œuvre au cours des 5 prochaines années. Ce sont toutes des infrastructures qui aujourd'hui saturent en heure de pointe le matin, mais également pour la plupart le soir. Nous avons pour objectif de mener à bien au cours du premier semestre 2025 des scénarios de trafic concernant ces aménagements pour simuler quelles seraient les conditions de circulation si on mettait en œuvre ces aménagements à la fois en silo, mais également combinés entre eux et combinés également au projet de mobilité que le gouvernement envisage de mettre en œuvre, à savoir les voies réservées pour les transports collectifs et les pistes cyclables.
On vous a déjà détaillé ces travaux à venir, le remplacement du giratoire de la Présidence par des feux, l'extension de la ligne verte sur l'avenue du Prince-Inoy, la suppression de plusieurs ronds-points à Pirée, l'installation d'une troisième voie mobile à Marina entre le bas du Tahara et le début de Super Marina et le développement des voies de bus et de pistes cyclables. Et de nouveaux comptages sont prévus cette année, mais cette fois entre Taravao et Faa, où des aménagements sont également prévus, mais pas pour tout de suite.
On quitte la route pour aller en mer.
Pour parler Holoturi ou Rory de leur nom tahitien, un projet est en cours pour lancer des produits à base de sécrétion de Rory. C'est la société Tahiti Marine Group qui souhaite utiliser les propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes de ces sécrétions pour des soins et des compléments alimentaires. Mais voilà, la convention de Washington protège les espèces menacées et restreint les exportations. Il faut être capable de montrer que l'activité n'est pas préjudiciable pour la survie de l'espèce pour obtenir une dérogation. Mais le parcours administratif est long et il manque encore une pièce du puzzle. On écoute le directeur adjoint des ressources marines, Moana Mahamat.
On n'a toujours pas la réponse pour l'autorité scientifique. Et donc, une fois que l'autorité est nommée, le pays va pouvoir fournir à cette autorité scientifique un dossier permettant de valider que l'exploitation est non préjudiciable. L'année dernière, le pays a réalisé sur différents atolls des évaluations de stock de ces deux espèces. Nous, par anticipation, dans notre dossier qui va montrer que l'activité est non préjudiciable, on a déjà mis en place des normes pour l'activité d'aquaculture. Il faut vraiment valider officiellement les possibilités d'extraction, de transformation, d'exportation.
Et il faut que le dossier avance vite car une entreprise veut développer la culture de l'holoturie dans le sud de la France et comme Tahiti Marine Group, utiliser les molécules bioactives. Il s'agirait donc de ne pas se faire doubler.
Il est 7h04 à la une de l'actualité ce vendredi, on reparle de la frappe.
Oui, souvenez-vous, la fédération promettait un mardi noir pour la rentrée et avait finalement levé son préavis de grève. Moëtte Emroversen, partie à Paris, avait confié le dossier à sa ministre de la fonction publique. Et depuis, eh bien, pas de rencontre, selon Vanina Krolla, mais les calculs ont été faits. Et la ministre a expliqué à Tahiti Info que les demandes du syndicat n'étaient pas possibles. Prochaine réunion prévue, ce sera lundi pour le Conseil supérieur de la fonction publique.
Justice avec cette affaire d'indivision qui n'a pas fini devant le tribunal foncier, mais le tribunal correctionnel.
Un oncle et son neveu sont en détention provisoire depuis 2 jours lorsqu'ils comparaissent à la barre. Le plus âgé doit se justifier pour des menaces de mort et des violences avec armes. Le second pour violence également et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, Valdemar Delage.
Oui, il s'agit d'un oncle et de son neveu. Ils partagent une haine viscérale que chacun voue à l'autre. Ils partagent une mauvaise réputation dans leur quartier de Mahina. Ils partagent surtout leur habitation. Le plus jeune y habite depuis des années, mais en 2020, il a vu débarquer son aîné venu des Tuamotu s'installer dans cette maison dont il est également propriétaire. Et rapidement, la cohabitation tourne au cauchemar, insultes régulières, menaces. Et le 12 janvier, une énième dispute éclate entre les deux hommes. Dans la salle d'audience hier, les juges ont tenté de démêler le vrai du faux. Chacun accuse l'autre d'avoir commencé, minimise sa responsabilité. D'après des témoins, le plus âgé a rapidement sorti un couteau. Le mis en cause reconnaît s'être saisi de cette arme. Mais pour se défendre, dit-il, après avoir reçu un coup de pierre et des coups de râteau. Sans parvenir à démêler le vrai du faux, mais en jugeant prouvant que les violences avec armes étaient bel et bien caractérisées. Les juges ont condamné les deux hommes à la même peine, 6 mois ferme avec maintien en détention, Lucie.
Et à noter que le plus jeune restera plus longtemps à Noutania puisqu'un précédent sursis de 5 mois a été révoqué.
Allez, changement de décor, on part en voyage avec la compagnie du Ponant.
Déjà propriétaire du Paul Gauguin, elle est devenue l'actionnaire principal d'Aqua Expedition. Cette société basée à Singapour est spécialisée dans les croisières de très grand luxe. Elle opère aujourd'hui 5 navires sur des fleuves comme l'Amazone ou le Mekong, mais aussi en Indonésie ou aux Galapagos. De quoi renforcer donc la présence du Ponant dans la région. Le directeur commercial d'ailleurs de la compagnie avait déclaré sur Radio 1 vouloir développer leur offre en Polynésie française et plus largement dans le Pacifique.
Cette fois, direction les Sables d'Olonne où, vous le savez, Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe.
Si c'est une course en solitaire, c'est bien toute une équipe qui est derrière chaque skipper, et derrière le vainqueur du Vendée Globe se trouvait un Polynésien, Guillaume Combescure, un homme qui est né et a grandi à Tahiti et est souvent allé au Yacht Club de Haroué. Il est aujourd'hui le directeur technique du projet de l'IMOCA Massif Santé Prévoyance. Polynésie la Première raconte qu'il a été un des premiers à monter sur le bateau, féliciter Charlie Dalin. Le skipper a évidemment eu un mot pour son équipe, les meilleurs du monde, a-t-il dit. Cela faisait 3 ans que l'équipe préparait la course, explique Polynésie la Première.
Culture maintenant avec le FIFO, le festival commence le 31 janvier.
22e édition avec encore une fois une programmation riche et variée. Le documentaire reprend des forces en Polynésie sur 10 films en compétition, 3 sont polynésiens. Fier, la voix du Pacifique de Reynald Merien, Surf, le feu sacré de Christophe Bouquet et Benjamin Morel, et Tepuna Ora, la source de vie de Virginie Tetoofa. Le premier aborde les questions de transidentité, le second le surf et enfin le troisième est une histoire de femmes et de résistance. Et dans les films en sélection mais hors compétition, beaucoup de productions polynésiennes aussi, 11 sur 48. Une satisfaction pour Myriam Abono, la présidente de l'association du FIFO.
Ça prouve aussi de la résilience, je pense, du milieu de l'audiovisuel local, hein, qui a eu beaucoup de difficultés pour des empêchements de tournage, mais qui a su faire avec et surtout produire des films de qualité, des documentaires, de la fiction, être un peu sur tous les fronts. Donc nous, on est fiers parce qu'on est un réceptacle et puis surtout, on est fiers de pouvoir montrer que nos réalisations locales, elles sont en fait tout à fait au niveau de ce qui se fait dans la région et qu'elles intéressent, elles intéressent un public beaucoup plus large que juste le public local.
Une satisfaction aussi, car ça, c'est un des objectifs du FIFO, tirer la filière audiovisuelle locale vers le haut. Et justement, la programmation pour les professionnels sur le festival est aussi riche et variée. Table ronde, réflexion sur le secteur, développement de la filière, mais aussi atelier pour tous ceux qui aimeraient se lancer dans ces activités.
L'idée, c'est de proposer au FIFO de pas seulement de voyager en Océanie, mais aussi de découvrir les métiers audiovisuels. La meilleure manière de découvrir, c'est de s'initier. Donc, on a 6 ateliers d'initiation, un bootcamp audiovisuel qui dure 7-8 jours intensifs, c'est un stage créatif intensif. Et puis, on a 3 masterclass et 2 workshops qui, eux, sont accessibles plutôt au niveau adulte, professionnel, ou déjà, en tout cas, avec un regard engagé dans une réflexion de production audiovisuelle.
Et s'ajoutent bien sûr les rencontres en ligne avec chaque réalisateur, les fameux Inside the Doc et les nombreuses rencontres autour des thématiques des films présentés. Et le FIFO, ce sont bien sûr les projections des films tous les jours à partir du mardi 4 février ou encore sur la plateforme en ligne.
Et le FIFO, ce sont aussi des soirées cinéma, le fameux off du festival.
Et ce off sera vraiment exceptionnel avec une soirée spéciale dédiée à l'avant-première du film Waltzing with Brando le dimanche 2 février. Un biopic américain centré sur la période 1969-1974. Quand l'acteur Marlon Brando achète Tetiaroa dans l'idée d'y faire une retraite écologique, une 50aine de Polynésiens ont participé au tournage de ce film devant et derrière la caméra.
C'est une très très grande fierté, donc évidemment j'étais tout à fait excitée à l'idée d'intégrer ce projet à la programmation du FIFO, non pas pour parler de Brando ou d'une production hollywoodienne, mais pour célébrer la filière locale et célébrer ces collaborations internationales qui, je pense, reflètent le professionnalisme et la qualité de nos professionnels.
Une présentation qui fait écho aux intentions du gouvernement, car c'est mercredi dernier qu'il a transmis son projet de loi du pays pour créer des régimes favorables à toutes les productions qui viendraient aux Fénois. L'idée, bien sûr, étant d'encourager les tournages en Polynésie. Voilà, cette soirée cinéma, ce sera donc dimanche 2 février au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et l'acteur principal, Billy Zane, qui interprète Brando dans ce film, sera présent à cette avant-première à Tahiti. Et peut-être même le réalisateur Bill Fishman. Voilà, pour réserver sa place, il faudra aller sur le site du FIFO. C'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 7h30 pour la revue de presse.
Merci beaucoup Lucie, on passe à la météo sur Radio.